Actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et durant les 20 prochaines minutes, je vous propose donc de dresser un état des lieux des universités en Afrique avec en toile de fond les mouvements de grève qui paralysent les campus universitaires. C'est le cas notamment au Tchad où les étudiants sont en colère après la décision du gouvernement de supprimer les bourses d'études. Les autorités invoquent la crise économique que traverse le pays. Du coup, l'opposition s'interroge où sont donc passés les revenus pétroliers. En tout cas, les étudiants sont d'autant plus remontés qu'ils n'ont pas le droit de manifester. Contrairement à leurs camarades sud-africains qui, eux, manifestent depuis maintenant 2 semaines. Ils protestent contre l'augmentation des frais de scolarité. Ils ont augmenté de 8% cette année. Et si le mouvement se poursuit en Afrique du Sud, eh bien les examens de fin d'année pourraient être compromis. Au Niger, les enseignants étaient en grève il y a encore quelques semaines pour réclamer le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ils ont fini par obtenir gain de cause, tout comme au Gabon, au Congo, où les cours ont repris hier dans la seule université du pays, donc à Brazzaville. Après un mois de grève, le gouvernement a accepté de verser quelques impayés. Mais les négociations se poursuivent, autrement dire que la crise n'est pas encore terminée au Congo-Brazzaville. Alors comment s'annonce la rentrée universitaire dans votre pays? On va en parler ensemble durant les 20 prochaines minutes. Vos témoignages évidemment nous intéressent. 33 9 693 693 70. Vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux, notamment par exemple Macalou qui nous dit: au Mali, aucune date précise par rapport à la rentrée, c'est le flou total. Et même s'il y a rentrée, les problèmes récurrents persistent. Et il cite l'insuffisance d'infrastructures, des arriérés non payés pour les enseignants ou encore le manque de ressources humaines. Amidou, qui est étudiant au département télécommunications à Conakry, nous dit: la Guinée, le seul pays où le ministre ne fait aucun communiqué officiel pour la rentrée universitaire. À cela s'ajoute un manque criard d'infrastructures modernes, sans oublier le nombre pléthorique d'étudiants par salle. Casimir, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue sur notre antenne. Vous nous appelez de N'Djamena et vous disiez au Standard que la crise universitaire était profonde dans votre pays, le Tchad.
Oui, la crise universitaire est vraiment profonde et séculaire puisque depuis la création des universités, d'abord, il n'y a pas d'université au Tchad qui tienne, puisque les infrastructures n'existent pas, il n'y a pas un centre de documentation, il n'y a pas un campus. Et en plus de ça, les étudiants, lorsqu'ils vivent une telle précarité, ne peuvent que se remettre au peu qui existe. Or, maintenant, il se trouve que parmi les 16 mesures d'austérité, on inclut la suppression de la bourse. Or, la bourse constitue le minimum vital d'un étudiant tchadien. Avec tout ce qu'ils vivent, on ne peut pas supprimer la bourse parce qu'il y a moins de 5 années, on a augmenté la bourse par pure fantaisie politique. On augmente la bourse à 30 000 francs et maintenant, on supprime carrément la bourse.
Ouais. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'il n'aurait jamais fallu augmenter la bourse qui était passée à l'époque de 25 000 francs CFA à 30 000 francs. 30 000 francs, ça représente 46 euros par mois de bourse. Il y a justement un auditeur sur la page Facebook de l'émission, Mustapha, qui est en deuxième année de lettres modernes à l'université de N'Djamena. Il nous dit: oui, le gouvernement tchadien n'a pas réfléchi avant de supprimer les bourses. 80% des étudiants sont issus de familles pauvres. Et sans nos bourses, comment allons-nous faire pour payer notre logement?
Pour cela, je crois que les étudiants ne peuvent pas subir cette conséquence, puisque supprimer par exemple la bourse, c'est comme si on supprime les intérêts des misérables pour faire vivre les riches. Or, ici au Tchad, c'est un peu injuste, parce que les étudiants qui viennent par exemple des provinces doivent payer les loyers, doivent assurer le transport. Même les bus qui sont mis à la disposition des étudiants là sont payants. Et maintenant, si on supprime la bourse, cela veut dire qu'on ne permet pas aux étudiants de se déplacer pour aller à l'université, on ne leur permet pas de se loger, on ne leur permet pas de manger et surtout de se documenter. Or, ici, il n'y a pas de centre de documentation, il n'y a pas de campus.
Et en même temps, il y a les réalités, Casimir, vous le savez mieux que personne, vous êtes sur place, votre pays doit faire face à une crise financière et économique très importante. L'une des principales mannes financières du Tchad, c'est le pétrole. Et on sait tous que les cours des barils de pétrole ne cessent de chuter depuis maintenant 2 ans. Donc forcément, il y a moins d'argent dans les caisses de l'État.
il y a moins d'argent dans les caisses de l'État, mais on sait quand même qu'il y a des individus et on sait quand même qu'il y a des mesures qui peuvent remplir les caisses de l'État. Et on ne le fait pas. En supprimant, par exemple, les bourses des étudiants, ça ne résoudrait en rien du tout la crise, puisque la bourse des étudiants ne constitue même pas le 1 millième de ce que l'État devrait percevoir pour faire face à ses dépenses. Mmh. Et ici, supprimer la bourse des étudiants reviendrait tout simplement, relèverait simplement d'une fantaisie politique, puisque les étudiants déjà vivent une précarité que nous connaissons tous.
Ouais.
Et maintenant, on ne leur permet pas d'exister, on ne leur permet pas d'étudier.
En tout cas, la mobilisation n'est pas prête de s'arrêter. On sent bien la détermination des étudiants qui nous envoient leur réaction sur le réseau Facebook, sur la page Facebook de l'émission. Il y a Moussa qui nous dit « Mais pourquoi supprimer les 30 000 francs de bourse ? Au Tchad, il y a des institutions budgétivores comme le Conseil économique et culturel et social ou encore le Programme national de sécurité alimentaire qui ne répond même pas aux crises alimentaires qui frappent en ce moment le nord de notre pays. Stevens nous dit qu'au Tchad, on s'attend à une année blanche si le gouvernement ne revient pas sur sa détermination. Voilà, quelques-unes des réactions qui nous arrivent de Djamena. Encore une autre, allez, une dernière, Abderrahman qui nous dit que le spectre d'une année blanche se dessine à tous les niveaux du système éducatif tchadien. Rien ne va plus et il regrette, notre auditeur Abderrahman, que le président soit devenu sourd et muet. Bonne journée, Casimir. Merci de nous avoir appelé. Koba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Niamey, vous êtes étudiant en Master 2 de droit à l'université de Niamey et vous dites que dans votre pays, la situation universitaire est toujours bloquée.
La situation universitaire est toujours bloquée dans mon pays du fait que récemment, les enseignants donc étaient en grève. Il vous souviendra que c'était les étudiants qui étaient en grève pour défaut de paiement donc des allocations et bourses. Et disons donc cette allocation donc est insignifiante, c'est 230 euros annuels. Après cela, c'est les enseignants qui étaient en grève récemment. Donc du coup, nous sommes bloqués. L'année universitaire est bloquée. Pour une année universitaire, il nous faut passer 2 ans, 3 ans pour finir.
Ah oui.
La rentrée, on a effectué la rentrée, mais c'est seulement officiel. En réalité, à l'université, rien ne va. Il y a 6 mois de cela, il n'y a rien, on ne fait pas cours, les enseignants sont en grève, les étudiants, donc du coup, nous sommes bloqués.
Ouais. Excusez-moi, Koba, vous disiez qu'une année académique dure en moyenne 2 à 3 ans, ce qui semble évidemment surréaliste. Vous, ça fait combien d'années que vous êtes à l'université ?
Ça fait 8 ans que je suis à l'université, depuis 2008, et maintenant je ne suis qu'en Master 2. Et c'est pourquoi aujourd'hui on assiste donc à un phénomène qui est donc l'exode des étudiants. Les étudiants donc menacés donc par cette situation sont obligés de quitter pour les pays voisins, notamment le Burkina, le Togo ou le Bénin. Mmh. Ils partent, ils finissent leurs études, ils viennent, et il y a certains actuellement qui sont en année de thèse, et nous sommes là bloqués, on ne fait rien, et puis personne ne dit mot.
Ouais. Les enseignants sont en grève en tant qu'étudiants, vous êtes solidaires, vous, des enseignants ?
Non, je ne suis pas solidaire avec mes enseignants, je ne suis pas solidaire parce que les enseignants eux-mêmes passent tout leur temps à faire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas à leur profession donc d'enseignant, ils ne vont pas à cette profession, beaucoup, notamment en faculté de droit. En faculté de droit, on effectue la rentrée, mais les enseignants, ils sont tout le temps absents. Les étudiants partent pour les cours et l'enseignant, il appelle pour dire il n'a pas le temps, il ne vient pas un truc comme ça.
Vous êtes donc un peu livré à vous-même. Koba, merci beaucoup. Je vais lire le témoignage de Sabiou, qui est étudiant, lui, à l'université de Zinder, donc au Niger. Il nous dit que chez lui, la rentrée s'annonce mal. D'ailleurs, elle n'a même pas eu lieu. Depuis l'année dernière, nos enseignants sont en grève. Ils revendiquent, entre autres, des arriérés de 4 mois de salaire. Aux dernières nouvelles, les arriérés sont épongés, mais les primes de recherche restent impayé. Vous nous appelez évidemment, on a envie de vous attendre sur la situation sur les campus universitaires africains, 33 9 693 693 70. Jackson, bonjour.
Oui, allô, bonjour Juan.
Bienvenue Jackson.
Bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes étudiant, me dit-on.
Oui, effectivement, je suis étudiant.
Oui.
Alors, je voudrais dire qu'en ce qui concerne l'université Marine Gabi, parler de la rentrée académique 2016-2017 serait, à mon avis, une façon de forcer la note, tout simplement parce que les étudiants sont actuellement en grève depuis 3 mois, si je ne me trompe pas. Eh bien, certes, les enseignants ont pu obtenir gain de cause, mais par contre, les étudiants n'ont pas encore obtenu. Donc, ils attendent impatiemment justement le paiement de leur bourse.
Oui. C'est-à-dire que
la bourse,
vous-même, vous attendez une bourse, Jackson ?
Allô ?
Oui, vous attendez vous-même une bourse ?
Effectivement, nous attendons que l'État honore sa signature, parce que depuis plus de 3 mois, nous n'avons pas perçu notre deuxième bourse, la deuxième tranche justement de notre bourse. Donc nous attendons jusqu'à présent.
Ouais. Une réaction, Jackson, au propos d'un auditeur sur Facebook, il s'appelle Alcopar. Il nous dit: au Congo-Brazzaville, la bourse est bel et bien octroyée aux étudiants, contrairement à d'autres pays de la sous-région où elle a été supprimée. Il cite le Tchad, il cite également le Cameroun. Mais Alcopar se plaint des étudiants congolais. Il dit: mais les étudiants congolais se comportent comme des enfants gâtés. Au moindre petit retard de paiement, ils déclenchent des grèves.
Je pense qu'il s'est lourdement trompé, parce que, vous savez, Juan Gomez, la bourse constitue un élément très important, parce que la quasi-totalité des étudiants justement congolais vivent grâce à cette bourse-là, car elle permet aux étudiants de payer non seulement les loyers, mais également le fourniture et scolaire et le déplacement pour se rendre justement à l'école.
Oui. Effectivement, donc une bourse est indispensable pour les étudiants. Je précise quand même que les autorités affirment que, vu la situation économique du pays à cause de la baisse des cours du pétrole, eh bien, il est difficile effectivement de tenir tous les engagements. Le ministre de l'Enseignement supérieur a d'ailleurs récemment déclaré que c'était un secret pour personne, que la principale ressource du pays était aujourd'hui vendue à peu près à la moitié du prix fixé il y a 2 ans, donc c'est évidemment un manque à gagner. Le Tchad se retrouve dans la même situation que le Congo-Brazzaville. Paul-Marie, vous êtes sur place également à Brazzaville, bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas convaincu, vous, par les arguments des autorités pour justifier le retard dans le versement des bourses?
Mais pas du tout. Vous savez que, justement, lorsque nous parlons de la manne pétrolière, depuis 2003 jusqu'à 2014, le budget du Congo n'a fait qu'augmenter. Et nous avons d'ailleurs eu le privilège ou le bonheur d'avoir des excédents budgétaires. Donc de l'argent qui était gardé pour les générations futures. Alors, nous pensons que c'est de la mauvaise volonté du gouvernement, c'est de ne pas payer les bourses aux étudiants et de régler le problème des universitaires, notamment une véritable réforme universitaire pour que les enseignements soient adaptés un peu aux attentes du monde actuel. Donc c'est un manque de volonté, c'est un faux fuyant que de dire il y a la crise alors que nous avons une manne pétrolière. Je me rappelle encore le ministre de l'économie de l'époque qui disait que nous avons une embellie pétrolière qui nous a donné suffisamment d'argent et qu'on pouvait tout faire, tous les grands travaux orculiens. Alors pourquoi aujourd'hui nous avons cette idée d'une crise qui n'a commencé qu'il y a une année et demie?
Oui, il y a à peu près 2 ans que les cours du baril chutent. Merci Paul-Marie de nous avoir appelé de Brazzaville. Une réaction qui nous vient du Cameroun, Mouamadou, qui nous dit: la rentrée estudiantine est calme. Nous sommes en attente de 500 000 laptos promis par le chef de l'État pour apaiser les étudiants. Alors évidemment, j'ai regardé sur Internet ce qu'étaient les fameux laptos. Eh bien, les laptos, ce sont des ordinateurs portables. Chaque étudiant va recevoir gratuitement un ordinateur portable, et c'est ce que nous confirme également Souleymane de l'université de Yaoundé. Les cours se déroulent normalement et les étudiants attendent impatiemment la concrétisation de la promesse faite par le président Paul Biya, un don spécial de 500 000 ordinateurs portables aux étudiants. Bonjour Clément.
Bonjour Monsieur Rouen.
On revient au Tchad, situation tendue, je le disais, ça fait plusieurs semaines que les étudiants dénoncent la décision du gouvernement de supprimer les bourses d'études. Vous dites-vous que le gouvernement est totalement à côté de la plaque?
Je pense sincèrement que le gouvernement est à côté de la plaque pour deux raisons. Le premier, c'est que la première raison, c'est que le problème même du Tchad, on sait qu'il y a effectivement des crises financières. A-t-on analysé les causes? Est-ce que nous sommes seulement sûrs que c'est ce problème pétrolier qui a causé tout ce problème-là? Le fond du sujet, il y a eu tellement de détournements, il y a eu tellement de mauvaises gestions que finalement, faire payer le pot cassé aux étudiants me paraît pas une bonne solution.
Mmh. En même temps, excusez-moi, Clément, il faut tenir compte de deux choses. La chute des cours des matières premières et la chute des cours du pétrole, et en même temps, le budget de plus en plus important pour garantir la sécurité du pays. Ça ne vous a pas échappé que le pays est confronté à la menace djihadiste. Donc forcément, ça puise dans le budget de l'État.
Absolument, mais c'est là où vous revenez à l'analyse des causes. Il y a la fonction régalienne de l'État qui est la sécurité, c'est vrai, mais on était allé au-delà jusqu'à prêter main forte partout. Mais là, ça pose un problème. Mmh. Et aujourd'hui, c'est les étudiants qui vont payer le pot cassé, mais même au-delà de cela, on est d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Mais ce qui me paraît un peu encore choquant, c'est la démarche. A-t-on eu le temps de préparer et de négocier et de faire l'annonce et de mettre sur la table toutes ces propositions avec la société civile, les syndicats, l'Union des étudiants, pour pouvoir essayer de voir quelles sont les mesures qui seraient acceptables, oui ou non.
Ce sont donc des décisions unilatérales prises par le gouvernement sans consulter les forces vives de la nation, c'est ce que vous dénoncez. Merci Clément de nous avoir appelé sur Facebook. Mahaman nous dit que dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal, donc au Mali, les enseignants sont en grève pour 48 heures. Vous êtes sur place, appelez-nous, expliquez-nous pourquoi. Fassinou, qui est au Bénin, il nous dit que c'est la panique totale ici. L'inscription qui était gratuite dans les universités publiques est devenue payante. Et c'est exactement ce que nous dit Vigas, qui nous dit que le calendrier universitaire a été publié. Reste à connaître maintenant le montant à payer pour cette rentrée, car le gouvernement de Patrice Talon a supprimé la gratuité instaurée par l'ancien président Boni Yayi. Au Standard, nous avons une réaction de Côte d'Ivoire. Constant, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous nous appelez d'Abidjan, on vous écoute.
Oui, alors, pour abonder un peu dans le même sens que certains intervenants, bon, ici, les revendications des syndicats au niveau de l'enseignement souvent partent sur des bases, on va dire, légitimes, puisqu'il y a des problèmes partout, mais... Le fond du problème, c'est que ces déclenchements de grèves ont l'air d'être souvent opportunistes. Alors, par exemple, je vais vous prendre le cas. Aujourd'hui, on a une situation importante qui est en train d'être gérée par le pouvoir, à savoir la nouvelle constitution qui est en train d'être mise en place avec le passage du président à l'Assemblée nationale. Mmh. Et hier, les enseignants, par exemple, de l'université d'Abidjan ont décrété une grève.
Alors, une grève pour quoi ? Pour dénoncer quoi ? Je ne comprends pas bien.
Bon, enfin, ils grèvent parce que ils auraient entamé des discussions sur des revendications salariales et... Mmh.
Donc, je suis en train de comprendre ce que vous dites. C'est-à-dire que comme le projet de nouvelle constitution doit être présenté demain devant les députés, donc à l'Assemblée nationale, les enseignants ont décidé de se mettre en grève hier, juste pour faire pression sur le pouvoir, puisqu'effectivement, ce sera le moment pour eux de saisir cette occasion médiatique. C'est ça
voilà.
D'accord, ok.
Tout à fait. En fait, le problème, c'est que malheureusement, très souvent, ces responsables syndicaux qui décident de ces mots d'ordre sont les mêmes animateurs de certains partis politiques d'opposition. Donc,
On a beaucoup dit, et on le dit encore, que les fédérations estudiantines, les syndicats estudiantins sont trop souvent politisés. Ça a été longtemps un reproche qui a été fait à tort ou à raison. Je ne suis pas là pour porter un jugement aux syndicats estudiantins. Constant, je vous interromps malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne. Claire Hédon est déjà dans ce studio. Elle a hâte, évidemment, de prendre l'antenne, de rencontrer, retrouver les auditeurs d'RFI. On va lui donner le micro, évidemment, dans un instant. Je vous redonne quand même le sujet que nous débattrons demain ensemble. On va parler de la Confédération africaine de football, la CAF, qui a décidé donc de limiter à 3 le nombre de mandats de son président, 3 mandats de 4 ans. Cette mesure prendra effet dès l'année prochaine, mais elle n'est pas rétroactive. Et c'est là tout le débat que nous lancerons demain. Issa Yatou, il a 70 ans, il est à la tête de la CAF depuis 28 ans. Et bien, s'il le souhaite, il pourra de nouveau briguer 3 nouveaux mandats. Est-ce normal ? On en parlera évidemment demain. Bonjour Claire.
Bonjour.